à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode spécial d'ActuVu sur les élections européennes. Ces élections approchent, c'est dans un mois et demi, le 9 juin en France, donc on a voulu vous préparer une belle émission pour vous donner des clés de compréhension et les enjeux de ces élections. Comment on vote aux européennes, qui sont les principales têtes de liste, comment est géré le temps de parole dans les médias, pourquoi il y a autant d'abstention, tout ça, on va y répondre. On aura aussi un politologue qui va nous résumer les enjeux politiques de ces élections pour les partis. Et à la toute fin de l'épisode, deux eurodéputés viendront nous expliquer la position de leur groupe sur la politique agricole commune. Mais avant, on commence par les fondamentaux avec le défi que s'est lancé Paul, résumer le fonctionnement du Parlement européen. Du 6 au 9 juin prochain, les citoyens des 27 pays membres de l'Union européenne sont appelés aux urnes. Ils vont élire leurs députés au Parlement situé à Strasbourg. Mais le rôle du Parlement européen est souvent assez obscur, Paul.
Oui, pour faire simple, c'est l'organe qui représente tous les citoyens de l'Union européenne et ces eurodéputés ont plusieurs compétences. Alors la première, elle est législative. Le Parlement vote des lois proposées par la Commission européenne. Ces lois sont appelées couramment des directives et ces directives sont importantes puisque tous les États membres de l'UE doivent transposer ces actes juridiques dans leur droit national. Vient ensuite la compétence budgétaire. Les eurodéputés examinent de prêt et vote le budget annuel de l'UE en lien avec le Conseil de l'Europe. Et enfin, pour terminer, le Parlement possède plusieurs contre-pouvoirs au niveau exécutif. C'est lui qui valide le choix du ou de la présidente de la Commission européenne et c'est également le Parlement qui contrôle la désignation des commissaires qui font office en quelque sorte de ministres du gouvernement européen.
Et ce Parlement européen, comment il fonctionne ?
Eh bien, les eurodéputés sont répartis dans plusieurs groupes politiques transnationaux. On ne parle plus de Rassemblement National, de Parti Socialiste, de Renaissance ou encore de la France Insoumise. Au Parlement européen, les députés se rassemblent dans de nouveaux groupes politiques. Une sorte de coalition, hein, si l'on veut, où l'on partage les mêmes affinités politiques. Et c'est d'ailleurs pour cela que plusieurs têtes de liste cherchent actuellement des alliances. Tout ça dans le but de former un plus gros groupe politique. Et ils sont essentiels au fonctionnement du Parlement puisqu'ils décident des questions qui seront traitées lors des séances plénières.
Au total, ce sont 720 députés qui vont être élus pour une durée de 5 ans. Et justement, comment ils vont être élus? Si la majorité des élections présidentielles, municipales ou même départementales se déroulent très souvent en deux tours, ce n'est pas le cas là pour les élections européennes. Benjamin, tu nous expliques comment se déroule ce vote.
Oui, les quelques mots à retenir, suffrage universel direct à un tour. Concrètement, tout va se jouer sur un vote le dimanche 9 juin pour ces élections. En tout cas en France, parce que d'autres pays européens voteront eux dès le jeudi 6, comme les Pays-Bas. Les potentiels futurs députés européens ne sont donc pas élus individuellement, mais sur une liste. Les représentants français sont élus dans une seule circonscription nationale. En deux mots, tous les électeurs français votent pour les mêmes listes de candidats. Donc plus un parti obtient de voix, plus il obtient aussi un nombre important de sièges au Parlement. C'est ce qu'on appelle la représentation proportionnelle.
Mais il faut un minimum de voix pour pouvoir espérer avoir un ou plusieurs sièges.
Oui, la règle est différente en fonction des pays, mais en tout cas, en France, une liste doit atteindre la barre des 5% pour espérer avoir un siège minimum. Ensuite, la répartition est faite proportionnellement au nombre de votes reçus. Par exemple, en 2019, la liste soutenue par le Rassemblement National a récolté un peu plus de 23% des voix, juste devant la liste de la majorité à 22%, et les deux partis ont donc obtenu 23 sièges, alors que les écologistes, en troisième position, sont eux repartis avec 13 sièges et 14% des voix.
Cette année, il y aura 81 députés européens français, deuxième plus gros contingent après l'Allemagne, qui en aura 96. Vous connaissez peut-être Raphaël Glucksmann, mais un peu moins Valérie Yahié. Eh bien, pas d'inquiétude, c'est normal, on a choisi de vous présenter les trois principales têtes de liste qui sont devant dans les sondages. Arthur, on commence par le Rassemblement National avec Jordan Bardella.
Et oui, le très jeune président du Rassemblement National s'impose de plus en plus comme le grand favori de ces élections européennes. À seulement 28 ans, il a rapidement gravi les échelons politiques et devient depuis quelques mois le véritable visage de son parti. Il ne révolutionne pas totalement les idées du RN, mais malgré tout, il apporte une nouvelle touche en se tournant vers la jeunesse. Très présent sur les réseaux sociaux, il compte près de 1,1 million de followers sur TikTok et plus de 400 000 sur sur Instagram. Il a fait de la condition des étudiants français l'un de ses sujets majeurs, une jeunesse que le RN espère amener aux urnes pour les européennes.
Renaissance a choisi de se tourner vers la moins connue, Valérie Ayé.
Et oui, deuxième dans les sondages, très loin derrière Jordan Bardella, Valérie Ayé, tête du parti présidentiel, continue de perdre du terrain à quelques mois des élections. Encore inconnue du grand public il y a seulement quelques mois, cette fille et petite fille d'agriculteur n'a pas été choisie par hasard. En effet, son profil convient parfaitement à la situation actuelle que traverse le pays. Même si celle-ci est moins jeune que son adversaire du RN, elle n'a que 37 ans. Et autre point positif, à l'instar de Bardella et de Glucksmann, c'est une femme. Un profil qui semble adapté à la situation, malgré son manque important de notoriété qui inquiète certains membres de son parti.
Et du côté du PS, t'as pris un petit peu d'avance, c'est Raphaël Glucksmann qui est à nouveau candidat.
En effet, même si pour le moment la tête de liste du PS se positionne 3e des sondages récents, les chiffres sont plutôt positifs puisque l'écart avec Valérie Ayé ne cesse de se réduire. Un écart que l'eurodéputé espère combler, ralliant les voix des électeurs de la France insoumise. À l'approche de ces élections, il s'impose comme le candidat représentant de la gauche en France. À 44 ans, il garde une ligne directrice qualifiée de pro-européenne et veut fonder son programme sur 3 piliers, l'écologie, la défense et la solidarité. Une tête de liste qui veut montrer qu'il n'y a pas que les écologistes qui peuvent parler d'écologie, un bon moyen aussi de pouvoir attirer l'électorat des Verts et devenir le vote utile, comme pouvait l'être Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections.
Alors même si ces candidats dominent les sondages, ce ne sont pas les seules têtes de liste dans cette élection. On retrouve aussi Marie Toussaint pour les écologistes, François-Xavier Bellamy pour LR ou encore Manon Aubry pour la France insoumise. À moins de 2 mois de la date du scrutin, le RN est donné largement vainqueur dans tous les sondages. Derrière, c'est serré entre la liste Renaissance et celle du Parti Socialiste. Jean-Michel Ducomte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et maître de conférence à Sciences Po Toulouse. Avec des intentions de vote autour de 14%, est-ce que le PS peut croire à un retour avec ces élections ?
Peut-être pas un retour glorieux se traduisant par la reconstitution de ce qu'a été la social-démocratie en France, mais incontestablement, il semble être sorti de la zone de relégation qui était un petit peu la sienne, notamment lors des dernières présidentielles, lors des dernières législatives, lors des derniers scrutins. Et me semble-t-il, cette réalité tient pour partie à l'effondrement du vote en faveur du courant macroniste.
Ouais, justement, la liste Renaissance est largement distancée par la liste de Jordan Bardella. Elle semble clairement souffrir d'un manque de notoriété. Est-ce que sa tête de liste, Valérie Ayé, était un bon choix ?
Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que la tête de liste n'a pas une grande notoriété, donc c'est pas un facteur incitatif à voter pour elle. Et en second lieu, on est dans des élections qui, par nature, sont des élections où les gens votent rarement pour ou autour d'enjeux européens, mais davantage se défoulent sur des enjeux de politique intérieure. Donc elle est victime à la fois de son défaut de notoriété et de la critique récurrente à l'encontre de la politique conduite par le gouvernement et le président de la République.
Le Rassemblement national est donné largement en tête dans tous les sondages. Quel est l'objectif pour ce parti ? Renforcer sa place de premier parti de France, c'est ça ?
Oui, je pense pas que l'enjeu européen pour lui non plus soit un enjeu important, compte tenu d'ailleurs de la vision qu'il a de l'Europe. Mais c'est incontestablement une façon de dire « nous sommes en situation de devenir le premier parti de France » avec ce que cela comporte de poids, notamment dans la perspective des prochaines élections nationales qui, pour lui, comptent beaucoup, à savoir l'élection présidentielle et l'élection législative, l'une et l'autre devant normalement se dérouler à leur terme en 2027.
Vous en parliez un petit peu, on a vu certains candidats essayer de faire de ces élections européennes le 3e tour de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est nouveau de faire de ces élections européennes un enjeu national ?
Non, c'est une tradition malheureusement. Et on se rend compte d'ailleurs que la question européenne reste finalement très, très éloignée des plateaux de télévision. Enfin, il y a quelques candidats qui essaient de mettre en avant les enjeux européens, qui sont des enjeux considérables, notamment avec le conflit en Ukraine. Et la interrogation sérieuse sur une véritable défense européenne, mais ce sont dans la plupart des pays des enjeux nationaux qui, semble-t-il, en France plus particulièrement, vont déterminer les votes. Dans une élection, là aussi, il faut le rappeler, qui est une élection avec un taux d'abstention souvent considérable. Il est rare qu'on atteigne les 50% d'électeurs. Donc ceux qui votent, souvent, votent dans une logique essentiellement de critique de l'action gouvernementale.
Merci Jean-Michel Ducomte pour ces éléments de décryptage. Qui dit élection dit changement de règles de temps de parole dans les médias. 27 chaînes de télé et de radio doivent respecter un principe d'équité. Les chronomètres sont sortis dans les rédactions depuis le 15 avril, Valentine.
C'est une étape importante dans la campagne pour les élections européennes en France. Depuis le lundi 15 avril, l'ARCOM a entamé son décompte du temps de parole des candidats et des soutiens de chaque liste dans les médias audiovisuels. Au nom du pluralisme politique, l'autorité de régulation doit veiller à ce que le temps de parole à l'antenne soit partagé équitablement entre l'ensemble des candidats. La période de décompte dure au total 8 semaines. Contrairement à l'élection présidentielle qui implique une période de stricte égalité, les européennes, elles, respectent le principe d'équité. En gros, le temps de parole accordé à chaque parti sera proportionnel à leurs résultats aux précédentes élections et à leur poids dans le Parlement européen. Résultat cette année, le parti qui bénéficie du plus gros temps de parole, c'est le Rassemblement national. À noter que le temps de parole diffère du temps d'antenne.
Et il n'y a pas que les interventions des têtes de liste qui doivent être décomptées. Toute prise de parole d'une personne qui soutient telle ou telle liste est calculée. On l'évoquait il y a quelques minutes, l'abstention pour les élections européennes sera sans doute élevée. Ce scrutin n'a pas souvent attiré les foules. Et c'est les jeunes qui boudent de plus en plus ces élections, Thomas.
Oui, et d'après un récent sondage de la Fondation Jean Jaurès, 30% d'entre eux iraient voter en juin. Alors je suis allé voir les jeunes Toulousains pour savoir s'ils allaient, eux, se rendre ou pas aux urnes.
Moi je pense aller voter parce que je trouve que c'est important. Parce qu'après ça va avoir une influence sur ce qui va se passer après. Puis je pense qu'on a des opinions et qu'il faut les faire valoir.
Je compte pas voter parce que je pense que ceux qui proposent réellement des programmes, c'est les deux extrêmes. Et je pense que voter pour l'un ou l'autre extrême, c'est pas vraiment la solution à apporter pour résoudre des problèmes.
J'espère que les jeunes vont vraiment faire entendre leur voix, mais voilà, j'ai cette peur qu'il y ait une très grande abstention et que au final, ne soient élus que ceux qui soient votés par défaut un peu.
Comment on explique, Thomas, ce désintérêt pour ces élections ?
Alors, il y a plusieurs réponses. Beaucoup de jeunes ne s'identifient pas aux candidats, comme on vient de l'entendre. D'autres ne sont pas du tout intéressés. Il y en a même qui n'étaient pas au courant de ces élections. Mais c'est surtout le but de ces élections qui porte à confusion. Les jeunes ne connaissent pas les enjeux de ce scrutin. C'est en tout cas le constat que dresse Jean-Michel Ducomte, politologue et maître de conférence à Sciences Po Toulouse.
Parce que la question européenne, nous semble-t-il, est mal appréhendée par l'opinion publique, parce que rien d'ailleurs n'est fait pour lui donner l'importance qui doit être la sienne. Les autorités européennes elles-mêmes n'ont jamais véritablement accepter la mise en place d'une communication qui soit de nature à parler aux citoyens des différents pays de l'Union européenne. Donc l'Europe, ça reste un objet politique mal identifiable. Lorsqu'un problème se pose pour les agriculteurs, pour les salariés, enfin pour toutes les catégories socioprofessionnelles, souvent la facilité, c'est de dire c'est la faute à l'Europe. Elle est une sorte d'incarnation de ce qui ne va pas.
Et attention, si vous essayez de vous informer sur ces élections, soyez vigilants. Plusieurs comptes fake sur TikTok ont été créés pour promouvoir, entre autres, les idées des partis d'extrême droite. Pour cette fin d'épisode, on a voulu se concentrer sur un sujet qui centralise les discours de campagne des partis. C'est l'agriculture. Pierre, tu t'es intéressé à ce que proposaient les partis classés haut dans les intentions de vote, et l'agriculture est bien un enjeu de cette élection.
Oui, tout à fait. La politique agricole commune qu'on connaît mieux sous l'acronyme PAC est la cible des critiques des agriculteurs européens. La PAC, c'est la politique communautaire qui doit garantir aux agriculteurs européens un soutien financier et aux particuliers une alimentation sécurisée. Alors si les partis ne s'accordent pas sur la façon de modifier la réglementation européenne, ils reconnaissent tous en revanche que la PAC est actuellement défaillante. C'est l'avis d'Irène Tolleré, eurodéputée Renaissance et candidate à sa réélection, pour qui la PAC ne correspond plus aux exigences de l'agriculture moderne.
Le monde a changé et entre la crise Covid et la guerre en Ukraine, elle a révélé à l'Union européenne des dépendances qui font que certains textes de la politique agricole commune ont des impossibilités d'application et donc il faut qu'on change structurellement certaines choses dans la PAC. C'est d'un côté corriger le tir en flexibilisant des choses tout de suite, vérifier que ça marche bien en fait, voilà. Et puis structurellement, le monde a changé entre la guerre en Ukraine et puis le changement climatique. Corriger des conneries, c'est se donner les moyens d'atteindre les objectifs environnementaux.
Et côté Parti Socialiste, il faut également et d'urgence changer la conception de la PAC, d'après l'eurodéputé Christophe Clergeau.
Il faut refonder totalement la politique agricole commune. Aujourd'hui, la PAC, c'est une aide à l'hectare, multipliée par le nombre d'hectares, en France sans limite. Et ensuite, vous vendez vos produits sur les marchés. Donc ça, cela ne marche pas. Ça détruit l'environnement et ça ne permet pas d'avoir de la visibilité, d'installer des jeunes, de programmer des investissements ou de protéger le revenu. Donc il faut changer cette PAC-là avec à la fois des outils de régulation des marchés pour stabiliser les prix, réguler l'offre et la demande, et puis reboucler les aides sur des objectifs fixés par la société de création d'emplois, de transmission des exploitations à des jeunes, de qualité environnementale des produits et d'impact positif dans les territoires.
Et vous n'entendrez pas en revanche la voix du Rassemblement national dans cette émission qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Ce qu'on peut dire à présent, si on s'appuie sur la déclaration des candidats, c'est que la PAC va changer, on ne sait juste pas sous quelle forme.
Elle pourrait déjà évoluer cette semaine pour la dernière session du Parlement avant les élections. Les eurodéputés doivent se prononcer sur un assouplissement de la politique agricole commune. C'est la fin de cet épisode, on espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur ce sujet un peu obscur. N'oubliez pas d'aller voter, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Paul, à la régie et merci à tous mes camarades pour leur travail. On vous dit à la prochaine et bon courage pour les concours.